France Inter, le 18-20.
En France, le droit d'étouffer les affaires devrait être inscrit dans le code pénal. Ce serait plus honnête, car les magistrats comme les parlementaires ne se montrent ni très curieux ni très offensifs. La noblesse d'État bénéficie d'une relative absolution, car la République française n'est pas seulement bonne fille, elle est peu regardante, appréciation sévère mais juste, signé Claude Angéli, notre grand témoin de ce vendredi soir. Peut-être un peu trop sévère aujourd'hui et de moins en moins juste. D'ailleurs, c'est ce dont nous allons débattre dans ce téléphone sonne. Y a-t-il assez de contre-pouvoirs en France et lesquels? Toutes vos questions au 01 45 24 7000, hashtag Telson sur Twitter ou bien sur le site franceinter.fr.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Avec tout de suite un premier auditeur qui nous appelle de Bretagne. Jacques, bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir. La question était, est-ce que la plainte de Monsieur Solers, le porte-parole de Monsieur Fillon, a quelque chance d'aboutir, comme vous avez le responsable du canard enchaîné? Je pense qu'il doit bien avoir une idée sur la question. Et puis, un petit commentaire. Je pense que je comprends qu'il vous ait un peu flatté en disant que c'était une très bonne radio, parce que, comme on peut le penser, vous êtes tous de droite, sans doute.
Ça, aucun problème, aucun intérêt, surtout Claude Angéli. Est-ce que la plainte de Thierry Solers contre le canard enchaîné a des chances d'aboutir?
On tremble parce que François Fillon avait annoncé aussi une plainte. Bon, Thierry Solers a le droit de porter plainte, on est dans une démocratie et puis on verra bien. Mais enfin, je ne vois pas sur quoi il peut porter plainte, parce qu'il y a d'autres informations qui sont déjà sorties ailleurs que dans le canard. Sur, disons, les travaux tout à fait légaux de monsieur Solers avec des entreprises de déchetterie, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, alors, on attend pour voir. Vous savez, en général, quand un homme politique annonce qu'il va porter plainte, c'est pour dire aux autres que, médias que le canard enchaîné, ne venez pas là-dessus parce que je vais porter plainte aussi contre vous. Ça a des fois de l'effet, mais là, je veux dire...
Alors, y a-t-il assez de contre-pouvoirs en France et lesquels? C'est notre sujet de ce soir, avec aussi Eva Joly, députée européenne Europe Écologie Les Verts, ancien juge d'instruction, qui publie avec Judith Pérignon French Uranium, un polar politique aux éditions Arène Polar. Également avec nous Marie-Anne Cohandet, professeure de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon Sorbonne, dont on trouvera les manuels de droit public à la librairie juridique. Les contre-pouvoirs en France, ce sont les médias, c'est la justice et ce sont les institutions, a priori. Est-ce que la justice aujourd'hui fait son travail, fait mieux qu'autrefois?
Je pense qu'elle a fait beaucoup de progrès. Les institutions ont fait des progrès. Et notamment, il y a plus de transparence et la création de la haute autorité de transparence de la vie publique qui est dirigée par...
Suite
à l'affaire Cahuzac. Qui maintenant a des pouvoirs d'investigation et qui est dirigée par l'ancien procureur général de la Cour d'appel de Paris, Nadal, oui. Et fait un excellent travail et fait que les fortunes et les revenus des hommes et femmes politiques maintenant sont transparentes. Et ils enquêtent vraiment. Et donc, c'est ces textes-là, cette institution-là, qui fait par exemple que Pénélope Fillon a arrêté d'être assistant parlementaire un mois avant l'entrée en vigueur de la loi.
Donc pas tout à fait d'accord avec ce que crie Claude Angéli, que les magistrats ne sont pas très offensifs.
C'était très vrai. C'était très vrai lorsque Jean-Claude Marin était le procureur de Paris. C'est vrai qu'il n'ouvrait pas beaucoup d'instructions, que la presse pouvait publier des faits très inquiétants. Et je me souviens notamment du Monde qui publiait le fait que la villa de l'ancien président du Sénat avait été complètement refaite, payant liquide et avec des chèques tirés sur une société offshore, avec facsimilé des chèques. Et il n'y a pas eu d'enquête. Il suffisait d'être président du Sénat, d'avoir le privilège, une forme d'immunité. Il y avait beaucoup de résistance à ouvrir des informations. Ce temps-là a changé. François Molins, l'actuel procureur de Paris, il ouvre des enquêtes.
Alors justement, vous parliez du Sénat. Une question de Francis, qui nous appelle d'Orange. Bonsoir Francis.
Oui, bonsoir à tous. Le canard enchaîné, il y a quelque temps, avait parlé justement du Sénat
Et la probité aujourd'hui à des hommes politiques est sérieusement remise en cause. Alors, quid du Sénat et quid surtout de sa cagnotte, parce qu'à un moment donné, on parlait de cagnotte qui avait plusieurs millions d'euros, alors que, et puis bon, tout le train de vie du Sénat en général, Charles de Gaulle avait pensé à le supprimer, les gens qui se disent gaullistes devraient peut-être imaginer qu'on peut remettre en question aussi aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de ce problème, remettre en question effectivement cette institution qui pour les Français reste d'une très mystérieuse. Merci de votre réponse.
Merci. Claude
Angélie. Tout à l'heure, Eva Joly a parlé de la phrase qui est dans mon livre. Je n'ai pas visé tous les magistrats, comme la façon dont on critique la police, mais ce sont certains policiers, leur comportement. Et c'est vrai que, malgré les progrès que je reconnais, les magistrats ne sont pas assez sévères.
Ça, c'est vrai.
Et ne sont pas assez présents. Comme de la même façon, la société civile ne réagit pas forcément sur les informations qui sont publiées dans les médias et sur le comportement des hommes politiques. Il n'est pas normal que dans ce pays, des affaires ne sortent pas autrement que dans les médias et se terminent en... Je veux dire, par exemple, les faux électeurs de Tibéri, 16 ans d'instruction, avant un jugement, et maintenant c'est devant la Cour européenne de Bruxelles, et l'affaire Papon, qu'on a sorti juste avant une élection, mais parce qu'on avait les
entre les documents. Deux tours de l'élection, oui. De 81, d'ailleurs.
On avait les documents à ce moment-là, et ça n'a pas joué sur l'élection. Bon, Mitterrand aurait été élu quand même, mais on a les documents, on les publie. Et là, Papon, c'était aussi 16 ou 18 ans avant que le procès n'arrive, et encore.
Donc la justice est lente. Mais pour revenir à la question de l'auditeur, sur le Sénat que vous avez mis, oui. Mis en cause aussi récemment dans le Canard... la cagnotte du Sénat, comme qu'est-ce qu'on fait?
Ben, d'ailleurs, je crois que c'est Mediapart qui avait sorti que Fillon avait reçu deux chèques de 21 000 euros. Veut dire.
Sept chèques, oui. Et
c'était 3 000 chacun. Ouais.
C'était le restant de la cagnotte qui était à distribuer.
Mais il n'est pas mis en cause hein, dans cette affaire.
Donc la cagnotte, ce qu'on appelle la cagnotte. Et effectivement, un pot commun que les sénateurs UMP à l'époque avaient créé avec le reliquat de leur enveloppe d'assistant parlementaire. Donc, de l'argent qui n'était pas dépensé pour son objectif. Et officiellement, pour recruter des assistants parlementaires communs. Mais en réalité, un tiers de cette somme, ils se sont affectés. Et il s'appelait ça le privilège du bouilleur de cru, sans doute avec l'intention de pouvoir le garder à vie. Je suis d'accord pour dire que les privilèges du Sénat sont ahurissants. Figurez-vous que l'ancien président du Sénat dont je vous parlais, il a à vie un appartement de 210 ou 20 mètres carrés dans le meilleur quartier de Paris. Ça rime à quoi, alors qu'on a été président d'une institution dont l'importance politique n'est pas très grande?
Alors justement, le Sénat, ça pourrait être l'un des contre-pouvoirs institutionnels, Marianne Coandet. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale d'ailleurs, ne fonctionne pas vraiment comme des contre-pouvoirs.
Alors, il ne fonctionne pas vraiment comme un contre-pouvoir, d'abord parce qu'il a été conçu pour être toujours de droite. La composition.
Il n'a pas toujours été.
Ah bon, sauf pendant 3 ans.
Voilà.
Pendant près de 60 ans, il a toujours été de droite, sauf pendant 3 ans, parce qu'il a été conçu pour ça. Donc il peut être un contre-pouvoir par rapport à la gauche, mais par rapport à la droite, très rarement. Donc ça, c'est le premier problème. Effectivement, il y a tous les problèmes que vous venez d'évoquer. Et pour répondre à l'auditeur, on a depuis longtemps pensé à le supprimer, le modifier. Et l'an dernier, dans le rapport qu'on a conduit sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, on a fait un certain nombre de propositions pour modifier en profondeur le Sénat. Parce qu'effectivement, les privilèges dont il bénéficie jusqu'aux jardiniers sont complètement exorbitants.
Alors quand vous voyez aux États-Unis le contre-pouvoir du Congrès américain face au président, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ce serait transposable en France?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les mentalités. Aux États-Unis, le contre-pouvoir, c'est quelque chose d'évident pour tout le monde. Alors peut-être, avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler un point qui me semble extrêmement important, c'est pourquoi limiter le pouvoir? parce que je me souviens d'une conférence que je faisais avec des polytechniciens, ils me disaient, mais c'est formidable, un pouvoir très puissant, il ne faut pas limiter le pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'il faut limiter le pouvoir? Ben Montesquieu nous le rappelait, parce que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et l'histoire de tous les pays, dans tous les temps, nous a montré que quand on met un homme fort au pouvoir, ou ça pourrait être une femme, ça se termine toujours très mal. C'est ce qu'on a vu avec les nazis, avec les staliniens. Les Grecs avaient déjà découvert ça, on a vécu ça à Vichy. Donc voilà, la première chose, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de démocratie possible sans limitation du pouvoir. Alors ensuite, aux États-Unis, pour eux, la limitation des pouvoirs, c'est une évidence. Et donc aux États-Unis, il y a d'abord un pouvoir juridictionnel beaucoup plus fort que chez nous, un pouvoir de la presse beaucoup plus fort que chez nous, et puis un pouvoir du Congrès beaucoup plus fort que chez nous. Ils sont les deux tiers du temps en cohabitation, en fait. En France, au contraire, on a une espèce de culte du président qui, à mon sens, explique beaucoup de choses de l'affaire Fillon également, et qui fait que bon, on trouve formidable d'avoir un président très fort alors que c'est dangereux.
Et puis aux États-Unis, un petit juge, comme on dit parfois péjorativement, peut suspendre un décret du président. C'est extraordinaire.
Voilà, alors qu'en France, quand des juges ou la presse se permettent de dire qu'il y a un candidat qui a peut-être des problèmes, on crie au crime de lèse-majesté avant même qu'il puisse être élu.
Gilles, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bah, écoutez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le canard enchaîné, c'est qu'en fait c'est le modèle qu'il représente. Je m'explique, on a en ce moment une presse, enfin un monde médiatique de plus en plus concentré, et à mesure qu'il se concentre, de moins en moins crédible. À tort ou à raison d'ailleurs, hein, parce que certains médias qui appartiennent à des gros groupes sont pas fatalement moins objectifs ou moins crédibles, mais enfin maintenant la réputation des médias est un peu catastrophique. Bon, ce qui m'amène à me demander, mais est-ce que le canard enchaîné, qui maintenant est le seul média qui est à la fois totalement indépendant et qui a dans la crédibilité quasiment intacte, enfin je ne connais pas de sondage ou de d'enquête qui ait montré que les gens se méfiaient du canard, au contraire, il me semble qu'il y a plutôt un modèle d'attente par rapport au canard. Est-ce que
il a ses détracteurs aussi, hein, vous en faites pas.
Oui, ben je n'en doute pas. Mais enfin, cela dit, on les entend pas beaucoup, et surtout, ce qu'on constate, c'est que, sauf erreur, ça se vend bien, que d'un point de vue autant économique que financier, ça a l'air de pas mal se porter non plus. Donc, autrement dit, bon, le bilan a pas l'air mauvais, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est d'après Monsieur Angéli, est-ce que le modèle du canard est exportable? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir par hasard un deuxième, voire un troisième canard, comme par exemple dans l'édition, on note parallèlement à un monde de l'édition de plus en plus concentré, bah, des petites maisons d'édition qui sont toutes assez rebelles, assez insoumises, comme on dit, et qui ont quand même qui existent, même si c'est difficile, mais elles existent quand même.
Claude Angéli.
Je dois dire à notre auditeur, il est quand même injuste. Nous ne sommes pas seuls à faire ce métier, avec le plaisir qui l'accompagne. Il y a d'autres journaux, et il y a d'autres journalistes surtout.
Il veut dire une telle indépendance.
Ah, une telle indépendance. Mais une telle indépendance, c'est parce que nous avons...
Financière,
notamment. Nous sommes bénéficiaires, nous n'avons pas de publicité, nous ne pouvons pas traiter de tout, on n'a que 8 pages... On n'a pas de voiture de fonction, on n'a pas de grandes réceptions ici ou là, on ne vit pas sur la bête, et nous sommes actionnaires, les salariés, autres salariés que journalistes sont aussi actionnaires, et donc la propriété, c'est essentiel.
Mais elle est partagée par les salariés du canard. Mais est-ce que ce modèle pourrait s'étendre? D'autres pourraient faire pareil.
Mais il y a eu une période où les journalistes du Monde avaient beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Mais ça ne veut pas dire que dans le Monde il n'y a pas des choses passionnantes et des enquêtes importantes. Bon, Mediapart s'est créé et a montré aussi qu'il y avait quelque chose à faire sur un site avec indépendance. Bon, ensuite, le lecteur, s'il n'est pas paresseux culturellement, eh bien, il peut lire des journaux, y compris, je peux le dire, dans le Figaro, il y a des articles intéressants sur la politique étrangère. Et dans le livre que vous citiez, que j'ai fait, avec Pierre-Édouard Deldic, je cite une ou deux fois Le Figaro, qui critique, comme Le Canard enchaîné, l'installation d'une base française à 220 km
à Abu Dhabi,
des côtes,
oui.
des côtes iraniennes. Et c'est une chose extrêmement dangereuse. C'était une chose extrêmement dangereuse dans la période où on l'a créée, et elle est toujours là, cette base. Et si une guerre éclate dans ce coin, Sarkozy est allé sur place et a dit, si on vous fait la guerre, nous sommes en guerre avec celui qui vous fait la guerre. Mais enfin, avec les moyens qu'a la France, on ferait la guerre à l'Iran ? Allons donc. Et bien entendu, là aussi, aucune réflexion autre que celle des journaux, Le Figaro et nous, et aucune commission d'enquête pour demander à Sarkozy qu'est-ce qu'il lui a pris.
Alors justement, Marianne Corandet, les commissions d'enquête, ça non plus, c'est pas dans la culture parlementaire française. Elles existent, hein, pourtant il y en a.
Elles existent, il y en a, il y a eu des progrès quand même ces dernières années, notamment sous l'action d'Arnaud Montebourg, qui avait donné beaucoup d'énergie pour que ces commissions d'enquête soient plus puissantes, alors qu'elles avaient été presque absentes pendant des décennies. Donc il y a eu des progrès, mais elles sont encore ridicules par rapport à ce qu'elles sont aux États-Unis. Aux États-Unis, une commission d'enquête peut entendre n'importe qui, n'importe quand. Nous, on avait vu par exemple que la femme de Monsieur Sarkozy avait refusé de se rendre à une audition justement par une commission d'enquête, ce qui était absolument impensable dans la plupart des démocraties.
Oui. Eva Joly.
La commission d'enquête du Sénat, ils ont un mandat, ils peuvent incarcérer des gens qui ne se présentent pas. Donc c'est peut-être ça le secret. Et ils mènent de véritables enquêtes.
Aux États-Unis, vous voulez
dire ? Aux États-Unis. Il y a des enquêtes notamment sur le rôle des banques, sur le private banking, sur les abus des paradis fiscaux. Tout ça, c'est fait par les sénateurs. Mmh. Et nous ne connaissons pas cela. Et même les commissions d'enquête du Parlement européen, ils sont aussi très très faibles. Parce que justement, on n'a pas ce pouvoir d'obliger les gens à comparaître devant nous.
En même temps, le Parlement européen, la Commission européenne, vient de faire une retrait sur salaire de Mme Marine Le Pen, par exemple. Ça fonctionne.
Oui, ça c'est après une enquête de Olaf, qui est l'organe d'enquête parlementaire, donc du fonctionnement des institutions.
Est-ce qu'on imagine la même chose à l'Assemblée nationale française, Marianne Corandet ?
Surtout, moi, ce qui me choque dans l'affaire européenne, c'est qu'elle est condamnée, qu'on exige d'elle qu'elle restitue une somme puisqu'il est établi qu'elle a payé avec de l'argent public européen des gens pour son entreprise familiale qu'est le Front National, qui fait travailler plusieurs membres de sa famille. Donc, c'est quand même quelque chose qui est complètement illégal. Et ce qui me sidère le plus dans tout ça, c'est que les Français n'ont pas l'air de réagir beaucoup par rapport à cette illégalité. On n'en parle presque pas. Personne n'a l'air choqué. Alors que c'est vraiment quelque chose de très choquant du point de vue de la droiture financière et que, on trouve ça normal. Ça serait impensable dans n'importe quel pays d'Europe du Nord ou pays anglo-saxon.
C'est la paresse intellectuelle que dénonçait Claude Angéli.
Oui, il faut des relais. Une information, disons, la presse jouant ce rôle de contre-pouvoir, c'est limité. Parce qu'il n'y a pas de relais dans l'opinion publique, il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas des politiques, il n'y a pas des partis politiques, il n'y a pas d'associations qui, à chaque fois, s'emparent de l'information. Si c'est le cas, eh bien, il y a un progrès. Mais sous la 4e République, par exemple, il y avait des commissions d'enquête, même pendant la guerre d'Indochine, des commissions d'enquête où on interrogeait les généraux. Mais enfin, c'est là. Prenez le cas, par exemple, du Rainbow Warrior. La droite et la gauche n'ont pas voulu d'une commission d'enquête qui aurait mis obligatoirement en cause les généraux et les amiraux qui avaient poussé Mitterrand et Ernu à faire cette action stupide qui aboutit à la mort d'un photographe portugais dans un port de la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'en est au point où j'ai écrit dans Le Canard enchaîné, et c'est publié dans ce livre, les noms des généraux et des amiraux qui étaient en cause et responsables de cette bêtise, qui a bougé ? Même pas un droit de réponse. De la même façon, on peut écrire que l'Arabie Saoudite finance le terrorisme, le Qatar finance le terrorisme, même pas un ambassadeur se déplace. Mais maintenant, c'est gagné, tous les médias, toutes les radios, toutes les télévisions disent que les monarchies pétrolières sunnites ont financé le terrorisme et le développement du salafisme à travers le monde.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Les contre-pouvoirs en France aujourd'hui sont-ils suffisants avec Lionel qui nous appelle de Marseille. Bonsoir Lionel, nous vous écoutons.
Bonsoir. Tout d'abord, juste pour intervenir à ce que je viens d'entendre sur l'affaire avec... En tant qu'auditeur, je vais juste donner mon point de vue sur cette affaire avec Marine Le Pen. Mmh. Sur, elle a, enfin, on fait une retention sur son salaire ou sur, enfin, sur ce qu'elle touche. Et derrière, quand une personne, par exemple, au RSA, va avoir une irrégularité, on va lui arrêter complètement son aide. Et je vois, enfin vraiment, il y a ce truc-là déjà de poids de mesure.
De poids de mesure, oui.
Et après, donc je voudrais dire à titre personnel, je pense qu'il ne faut pas trop leur en vouloir aux hommes et aux femmes politiques. On les a très mal éduqués. On leur a laissé faire, se gaver pendant hyper longtemps. Et donc c'est un peu à nous de nous regarder aussi nos responsabilités. Ma question, elle est, que pensez-vous? Vous parlez de contre-pouvoir au niveau médiatique. Par exemple, est-ce que parfois il ne peut pas y avoir des connivences, comme on peut le voir dans un reportage qui s'appelle, sans vouloir incriminer qui que ce soit, les nouveaux chiens de garde qui parlaient de ces connivences entre médias et pouvoir? Donc voilà, c'est ma question, qu'en pensez-vous?
Vous voulez dire que des journalistes peuvent être instrumentalisés ou manipulés?
Ce qui est normal. Oui.
Claude Angéli.
C'est un excellent livre de Serge Halimi. Et c'est un livre qui amène une réflexion sur le journalisme et les citations des journalistes qui sont plus ou moins compromis ou plus ou moins mal conduits. Et je crois que la petite édition Libère qui avait sorti ça, 250 000 exemplaires, qui prouve qu'il y a un appétit pour la réalité ou pour la critique.
Alors aujourd'hui, au-delà des journalistes, il y a les lanceurs d'alerte qui ont fait leur apparition. Et justement, Eva Joly, un auditeur vous demande ce qu'est devenu la pétition que vous aviez lancée en avril 2016 au sujet des Panama Papers. Elle avait rassemblé plus de 500 000 signatures, dont la sienne, notre auditeur. Et pourtant, dit-il, on a l'impression que tout est passé à la trappe.
Non, ce n'est pas passé à la trappe. Il y a effectivement eu 500 000 signatures pour dire que le temps de l'impunité des banques et des intermédiaires dans la création des sociétés offshore, des sociétés bidons dans les paradis fiscaux, c'est fini. Et cette pétition demandait qu'on crée des task force dans tous les pays européens pour juger les banques et les intermédiaires et évidemment les titulaires de ces sociétés. Alors, en France, il y a eu une enquête initiée par Éliane Houlette, l'excellente magistrate qui fait un remarquable travail.
Au parquet national financier.
Au parquet national financier. Il y a des enquêtes initiées. Et au niveau européen, nous avons créé une commission d'enquête qui essaye d'établir donc l'étendue du problème et répondre à la question comment se fait-il qu'il a été possible de exporter autant de fonds secrètement alors qu'il y a une législation anti-blanchiment très puissante. Où sont les connivences? Et ce qu'on voit, donc devant notre commission d'enquête européenne, les banques viennent, HSBC ou Nordea par exemple, et la semaine prochaine, c'est Société Générale, et nous explique que maintenant ils ont renforcé vraiment le service de compliance, que maintenant ça va être beaucoup mieux. Mais ils ne nous disent pas ce qui est arrivé de ceux qui sont responsables.
Et il n'y a pas eu de conséquences.
Il n'y a pas eu encore, en tout cas, de condamnation des banques qui ont organisé tout cela.
Alors, vous parliez du parquet national financier. Il est chargé de lutter contre la grande délinquance financière et fiscale.
Oui.
Quand les avocats de François Fillon disent qu'il n'est pas compétent.
Ils disent n'importe quoi, d'abord.
Pour traiter de l'affaire qui nous intéresse.
Oui, ils font, eux, un rideau de fumée. Vous direz qu'ils sont peut-être dans leur rôle. Mais leur communication, je la trouve très hostile à la justice. Et ce n'est pas vraiment leur rôle. Et surtout, François Fillon lui-même en tant que candidat au poste suprême, il attaque les institutions, ce qui est pour moi très choquant. Évidemment, tous les juges sont nommés par un ministre, et lorsqu'il jette la suspicion sur l'excellente magistrat qui est unanimement reconnu, qui dirige le service, c'est tout à fait honteux.
Alors l'autre critique qui est faite, et ça c'est plutôt pour vous Marianne Coandet, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs.
Oui, alors là on marche sur la tête. Oui. J'ai beaucoup d'estime pour Pierre Avril et Jean Jiquel qui ont écrit un article en ce sens-là, mais je suis en désaccord absolu avec eux. C'est à mon sens un contresens sur la théorie de la séparation des pouvoirs. Que nous dit Montesquieu ? Que tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser, et donc quand on abuse du pouvoir, il n'y a plus de liberté. Or, que conclut-il ensuite ? Il dit, pour qu'on puisse préserver la liberté, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc toute la théorie de la séparation des pouvoirs est basée sur cette idée. Si on veut garder la liberté, il faut mettre en place des pouvoirs qui arrêtent le pouvoir. Que se passe-t-il en l'espèce ? On a des journalistes qui font leur travail, on a des juges qui font leur travail, qui disent, attention, est-ce qu'il n'y a pas un abus de pouvoir ?
Un député fait ce qu'il veut de son enveloppe.
Oui, mais il fait ce qu'il veut, mais il n'a pas le droit de faire des actes illégaux quand même. Oui. C'est ça le problème. C'est que la liberté n'implique pas la liberté de commettre des délits. Or, là, on est dans le domaine du droit privé et on n'a pas le droit de payer des gens à ne rien faire. C'est de l'argent public. Si c'était leur argent personnel et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent avec leur femme, ça les regarde. Mais c'est l'argent public, c'est de nos impôts qu'il s'agit. Et donc, ils n'ont pas le droit de payer des gens à ne rien faire avec nos impôts.
Et de la même façon, peut-on mettre en cause un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire fausser un petit peu l'élection ?
Alors, ça ne fausse pas l'élection, au contraire, ça protège la France. Alors, il y avait eu la même histoire, vous vous souvenez, pour l'histoire des sondages de l'Élysée. Sauf que c'était le candidat qui était déjà élu. Monsieur Sarkozy, les premiers juges avaient dit « Oh, séparation des pouvoirs, il ne faut pas embêter l'entourage de l'Élysée ». Fort heureusement, la Cour de cassation avait dit « Mais attendez, c'est pas du tout ça la séparation des pouvoirs. Au contraire, la séparation des pouvoirs ordonne que chaque pouvoir empêche les abus de l'autre. Or, en l'espèce, on est seulement en présence d'un candidat à l'élection. Il n'est même pas élu. Donc, ce qui peut se produire, c'est que si jamais, au tout dernier moment, juste avant l'élection, il était obligé de se retirer, qu'on déplace l'élection, comme le prévoit la Constitution, ça serait raisonnable. Mais on n'est pas du tout encore dans cette hypothèse-là. On est très loin de cela.
Claude Angéli ?
Oui, et il est remarquable que des pays comme les États-Unis, dont le système est fort critiquable par ailleurs, mais sont plus démocratiques que la France sur ce plan-là. Il y a les contre-pouvoirs existants et ils sont puissants, même quand il s'agit d'un petit juge d'un État. C'est vrai aussi en Grande-Bretagne, c'est vrai aussi en Allemagne. Nous sommes à la traîne. Et il faut en finir avec ça, parce que sinon on continuera toujours à se lamenter, à pleurer, ou même à écrire, mais sans qu'il y ait d'autres résultats qu'une excellente émission.
Que des indignations. Justement, Bruno, dans l'Essonne, nous appelle sur ce point, je crois. Bonsoir Bruno.
Bonsoir. Ouais, en fait, j'ai deux interrogations. La première porte sur le traitement judiciaire entre le vulgum pecus que je suis, ou un citoyen lambda, et puis les personnels de la République, qu'ils soient députés, sénateurs ou ministres. Je pense en particulier à l'affaire Cahuzac. Et puis le deuxième élément, j'ai une interrogation, je remercie d'ailleurs l'excellente tenue de cette émission pour ça, j'ai une interrogation par rapport à la manière dont les députés et les sénateurs sont à la fois jugés partis quant aux augmentations de leurs indemnités, des choses qui décident en fait de leurs émoluments, et en fait, il s'auto-augmente. Est-ce que c'est exact ?
Marianne Coandet.
Alors, il y a le principe de l'autonomie des parlements qui fait qu'effectivement, on tient beaucoup à ce que le Parlement légifère pour lui-même. Mais là encore, c'est une question du contrôle du peuple. Si le peuple dit « on en a assez de ces magouilles, on veut que vous ayez des salaires raisonnables, comme ça se produit dans les démocraties du nord de l'Europe », eh bien je vous garantis que nos parlementaires seront obligés de réagir. Donc c'est à nous de nous prendre en charge et de taper du poing sur la table en disant « ça suffit, on veut qu'il y ait des salaires plus raisonnables ».
Mais justement, à propos des démocraties du nord de l'Europe, Henri nous appelle de Grenoble.
Oui, oui. Bonsoir, Madame Eva Joly. Bonsoir, France Inter.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est une question pour Madame Eva Joly. Étant donné la réputation d'intégrité des pays nordiques, est-ce que une affaire Fillon en Norvège, l'intéressé serait obligé de quitter le pays ?
Pas quitter le pays.
Le pays ou le parti ?
Mais il serait obligé de se retirer pour la postulation qu'il aurait en route, puisque vous savez que la Norvège est un royaume, donc nous n'avons pas les élections de président de la République. Mais comme ministre, par exemple, ou comme candidat à la députation, ça aurait duré 2 heures. Je veux dire, un scandale comme ça mis sur la table, mais c'est la démission immédiate.
Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'institutions, là, Marianne Corandé. On est bien dans le cadre interne d'un parti, du fonctionnement d'un parti. Ça, à la limite, ça regarde le parti.
Oui, mais le fait qu'on ait une pratique très présidentialiste a une influence très grande là-dessus. Pourquoi ? Dans le texte de notre Constitution, le président est simplement un arbitre. Et c'est le gouvernement qui doit gouverner, parce que le gouvernement est responsable, tandis que le président est irresponsable. Mais dans les faits, ça ne marche qu'en période de cohabitation. Le reste du temps, on a une interprétation excessivement large des pouvoirs présidentiels. Donc tout le monde se dit, le président va avoir un pouvoir énorme. Et notamment le pouvoir d'avoir dans sa main la carrière de tous ses amis politiques. Donc avant même son élection, tous ses amis veulent se faire bien voir de lui pour pouvoir espérer faire de belles carrières. Donc ce présidentialisme pourrit toutes nos institutions jusque avant même l'élection présidentielle, on le voit très bien ici.
Alors on parle des contre-pouvoirs. Parmi ces contre-pouvoirs qui ont fait leur apparition, on évoquait les lanceurs d'alerte. Il y a aussi, et de plus en plus, les pétitions en ligne. Hervé, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Rhône.
Oui, tout à fait, dans un drone. Actuellement, une pétition circule concernant le vote blanc. Je voulais savoir si, effectivement, ça pouvait faire office de contre-pouvoir et dans quelle mesure.
Marianne Corandé.
Alors, pour ma part, je ne suis pas très convaincue par le vote blanc. Je comprends et je respecte totalement le sentiment qu'il exprime, c'est-à-dire un sentiment de mécontentement par rapport à l'ensemble de la classe politique. Voter blanc, ça veut dire je suis un citoyen responsable, je fais l'effort de voter et je manifeste mon mécontentement. Néanmoins, on va quand même avoir beaucoup de candidats. Et puis surtout, et là encore on trouve le problème du présidentialisme, actuellement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voter, parce qu'on a l'impression qu'en votant pour le président, on lui signe un chèque en blanc pour 5 ans. Parce que pendant 5 ans, il est indéboulonnable, pratiquement incontrôlable, parce que pour le destituer, il faut un vote à la majorité des 2/3 qui est presque impossible. Et donc, on n'a pas envie de signer un chèque en blanc à qui que ce soit. Alors que si on avait des institutions plus équilibrées, comme dans tous les autres pays d'Europe, partout ailleurs, on a des pouvoirs beaucoup mieux répartis, beaucoup plus limités, beaucoup plus équilibrés. Et dans la plupart de ces pays, on a un taux de participation aux élections beaucoup plus élevé. Donc je crois que plutôt que le vote blanc, la solution, c'est le rééquilibrage des pouvoirs. Et puis sinon, d'autres pistes, moi, j'avais proposé il y a
le
peu de temps.
Le vote par note, vous, c'est ça?
Voilà, le là, vote c'est... par note.
Bon, ça va être long
donc,
à expliquer.
Donc il y a encore une autre
ça
possibilité.
Va être long à expliquer. Vous, Eva Joly, vous n'êtes pas pour le vote blanc? Vous êtes pour le vote vert, de toute façon, vous.
Je suis pour le vote vert, oui. Et surtout, il faut changer de république. La 5e république, elle est au bout du souffle. Il faut vraiment passer maintenant à la 6e, et c'est urgent.
Bon, beaucoup de candidats le proposent. Arnaud, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, Arnaud.
Oui, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous écoute avec attention depuis le début de l'émission et je voulais revenir sur l'affaire Fillon,
oui,
et sur l'acharnement médiatique qu'il y a lieu. Et je voulais savoir pourquoi on ne parlait pas de l'origine des informations qui ont été communiquées au Canard Enchaîné, par qui elles avaient été communiquées. Et surtout, pourquoi cette affaire sort maintenant, en pleine campagne, alors que les faits remontent quelques années.
Vous ne pouvez pas demander à un journaliste de donner ses sources, vous savez bien.
Ah, bah écoutez, ça serait quand même très intéressant de les avoir, je pense.
Claude Angéli.
Oui, monsieur, nous ne pouvons pas donner nos sources, c'est évident. Mais je vous assure que cela ne vient pas d'un monde politique, on a cité Rachida Dati, Sarkozy, je ne sais trop qui encore. Ce n'est pas un acharnement. Nous avons travaillé à un moment donné parce que François Fillon était un favori. on l'a questionné, il nous a répondu, on l'a re-questionné, il nous a répondu, puis tout d'un coup, il a refusé de répondre, et là, mes petits camarades au canard ont compris qu'il y avait quelque chose. Et ils ont été informés par quelqu'un qui connaissait l'affaire, mais pas toute l'affaire. La preuve, c'est que nous ne savions pas qu'il avait fait travailler ses enfants, nous ne savions pas que Pénélope Fillon avait travaillé auparavant sur une période que nous ne connaissions pas, et on a continué. Et ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas, on n'avait pas ça sous le coude, on ne garde pas des informations, je l'expliquais tout à l'heure, sous le coude, en pensant qu'il faut les réserver au Monde, à Mediapart ou à quelqu'un, chacun pour soi dans ce métier-là. Et donc, il n'y a pas de mauvaise intention. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais enfin, l'avenir le dira.
Encore une fois, ce ne sont pas les faits, ce sont pas les la révélation des faits qui compte, mais les faits eux-mêmes.
Oui, les faits eux-mêmes, et la responsabilité. S'il y a quelque chose qui se produit, s'il y a d'autres candidats qui en profitent...
Ou est-ce que vous enquêtez pareillement sur les autres?
Oui.
Évidemment.
Oui, mais c'est, je dirais, sur les autres, écoutez, il y a d'autres journaux, oui. D'autres journaux qui peuvent aussi, oui. Si nous sommes déficients, ce que je ne crois pas, peuvent travailler. Oui. Le Figaro, Valeur Actuelle, oui. Le Monde, tout le monde peut travailler. Nous n'avons...
Alors ce sera plutôt sur les candidats de gauche, alors?
Pas forcément, pas mais forcément. Je dirais, c'est la règle du jeu. Et si nous ne donnons jamais les noms de nos informateurs, dans le livre, il y a un chapitre qui mentionne des militaires,
oui,
des diplomates,
de façon générale, oui.
Des policiers, des magistrats, d'autres journalistes.
Eva Joly.
Oui, ce qui compte évidemment, c'est de savoir si ces informations sont vraies ou pas. C'est exactement dans mes instructions, on dit toujours, mais tu es manipulé, tu fais la lead de l'extrême droite, et moi je répondais toujours, ça m'est égal de savoir d'où viennent les informations, ce qui compte c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Et il faut bien se rendre compte que si on prétend devenir président de la République, toute votre vie va être scrutée. On vous passera rien. On commencera par votre babysitter lorsque vous aviez 28 ans et on passera toute votre vie en revue. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est de prétendre devenir président de la République lorsque on a une casserole pareille.
Alors, justement, une auditrice qui nous demande par mail comment dans notre arsenal juridique, un candidat à la présidentielle peut continuer dans ces conditions à se présenter pour diriger le pays.
Chirac. Il a été président.
Mais les
deux
temps
mandats.
Ont changé. Les temps ont changé.
Les temps ont changé.
Les gens sont tout de même un peu moins passifs qu'ils ne l'étaient. Et puis l'image de la France à l'étranger, c'est une catastrophe pour l'image de la France. On voit comment les journalistes, comment les peuples étrangers réagissent. Ouais. On a l'air d'être un pays complètement arriéré.
Très corrompu.
Très corrompu.
Marianne Coandet, professeure de droit à Panthéon-Sorbonne, Eva Joly, dont le livre s'appelle French Uranium, et Claude Angéli, qui a écrit Les plaisirs du journalisme chez Fayard. Merci à tous les trois et bonne soirée.